CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Vous savez tous que le curé de Caylus, Bernard Vachereau, est un historien et qu'à ce titre, il vient enregistrer des émissions régulièrement dans nos locaux. Et puis, comme ça, à brûle pour point, pendant une pause musicale, on a un petit échange sur ça a commencé par un dessin qui aurait pu être dans Charlie. Et oui, cette affaire Charlie, tiens, on n'en a pas parlé. Ouais. Et, alors, vous me disiez, Bernard Vachereau, bonjour d'abord.
Salut à tous.
Bon. Vous me disiez, il y a une constante qu'on entend en ce moment, alors, c'est mais.
Oui, si tu veux.
Je, mais.
Alors, si tu veux. D'abord, je commencerai par dire que j'ai participé à Caylus à la manifestation de soutien à Charlie Hebdo.
Oui, c'était dès le 9, c'est-à-dire le lendemain.
Oui. Et que, à la demande de notre évêque, Bernard Ginoux, j'ai sonné le glas. Bon. Et, que par la suite, j'ai participé à la manifestation à Montauban. Alors ça, c'était pour préciser...
Que vous êtes dans le camp de ceux qui défendent la liberté d'expression...
Tout à fait.
...par rapport à les extrémistes religieux, quels qu'ils soient...
À tous les extrémistes.
Qui considéreraient que ce qui est un blasphème dans leur religion devient un délit de blasphème...
Alors, il faut petit peu mesurer le terme de blasphème... Hein, je lisais aujourd'hui, qu'est-ce que je raconte, un petit encart très intéressant dans le journal La Croix. Bon, à partir de quand considère-t-on et jusqu'où qu'il y a blasphème, hein? Et blasphématoire, par exemple, un dessin ou une parole insultante à l'égard d'une religion, parce que le blasphème, ça s'adresse à une religion.
Oui, donc, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui pensent que peut-être Dieu existe, mais qu'ils n'en ont rien à péter, déjà, ils vous écoutent plus, ils peuvent zapper, parce que si ça ne concerne que les croyants à une religion, le blasphème, ça ne nous concerne pas.
Ben exactement. Alors, par exemple, il y a eu le cas au Pakistan, de cette personne qui a été condamnée, hein, faut pas l'oublier.
Le Pakistan, je rappelle, n'est pas un pays laïque.
Je le rappelle aussi, d'accord, et qui a été condamné pour blasphème contre le Coran et Mohammed, du fait qu'elle était chrétienne, etc., etc., bon, et que de sa réaction, bien. Alors, jusqu'où peut aller la liberté? Jusqu'où peut aller la provocation? Bon. Il faut réfléchir sur le mot provocation et la volonté du provocateur. Peut-être est-elle une volonté d'ouverture. Quand une porte est fermée un peu trop durement, il faut parfois le bélier pour l'ouvrir. Bon, le coup de bélier est salutaire parce que, ouvrant la porte, on ouvre à la vérité, on ouvre à la liberté, on ouvre à tous les sentiments qui sont nobles et grandioses.
Donc vive la provocation.
Quelque part, elle a un aspect très positif, il ne faut pas le nier.
Hein? Mais
et elle a permis à tout le monde cette provocation, elle a permis à tout le monde de s'exprimer, parce que ne jouons pas les enfants de cœur, tout le monde... a usé à un moment de son histoire de la provocation.
Oui, ces gens qui allaient prendre la Bastille en 14 juillet 1789, qu'est-ce qu'ils voulaient en faire? C'était bien des provocations.
Bon, il y avait eux, il y avait la provocation, là, je l'ai assez dit par exemple dans la vie de Saint-François d'Assise, d'une église ultra-luxueuse qui était fort éloignée de l'Évangile. Bon, c'était aussi une forme de provocation à l'égard des plus pauvres. Il y avait d'autres formes de provocation qui n'étaient pas moins scandaleuses.
Oui, parce que vous alliez faire un lapsus, quelquefois, dans la provocation venant d'un haut lieu, c'est une forme de prévarication.
Hein. Il y en a un petit peu. Bon, et là, je reprendrai le mot de Jean-Paul Sartre. Tout le monde
Jean-Paul
a les mains
Sartre.
Sales. Oui, bien sûr, ben oui.
Ah, même pas Jean-Paul II, Jean-Paul Sartre, directement.
Oui, tout à fait. Ah, mais peut-être que sur certains points, Jean-Paul Sartre et Jean-Paul II auraient été d'accord.
Ouais, c'est vrai que Jean-Paul Sartre avait tendance pour se prendre pour un pape, oui.
Alors, ben, tout le monde a les mains sales. Bon. Donc, à partir d'un certain moment, alors ce que j'ai lu avec un petit peu de regret, je dois dire, par la suite dans notre journal chéri,
le
nouveau, à savoir Charlie Hebdo.
Le Charlie des survivants, c'est ça. Le premier numéro paru après cet assassinat.
Oui. Bon, quand il dit, par exemple, « Nous nous découvrons de nouveaux amis », avec ironie. Je regrette cette petite ironie parce que, en fait, c'est faux. Il a Il a toujours eu ces amis-là, mais ces amis-là n'ont pas été mis dans le cas de devoir s'exprimer. Et le côté positif, alors, de la réaction islamiste, a été justement de pousser ces amis-là à réagir. Mais c'est ça le côté intéressant de l'un et de l'autre, c'est de pousser l'autre à réagir.
Donc les frères, je ne sais plus comment ils s'appellent, là, Kouachi et le Koulibaly sont des provocateurs.
Ce sont des provoques. Bon. Bah, ils auraient
pu se contenter de dessiner. Hein,
ils ont leur côté très négatif et scandaleux, que l'on a vu. Alors, ce qui est terrible, c'est cette haine de la liberté. Alors, cette haine de la liberté est profondément antichrétienne. Car, je rappelle le mot de saint Paul, « Christ vous a fait libre et non pas esclave ». Or, le Christ, tout au long de son évangile, qu'est-ce qu'il fait? Il libère. Quand le possédé gérasénien se présente devant lui, que fait-il? Il le libère de l'esprit du mal qui est en lui.
Oui, mais là, vous n'êtes pas dans votre émission, Bernard Vacherot.
Non, mais...
On va retrouver le fil, effectivement.
Oui, l'histoire
du monachisme. Mais, à l'occurrence, les assassins ne se réfèrent pas au message du Christ.
Du tout.
Ah.
Ou parfois, malheureusement, ils s'y sont référés, dans certains cas, mais pour le pervertir.
Oui, enfin, au moins, on ne peut pas leur reprocher ça. En revanche, ils se réclament du prophète. Est-ce que quelque part, dans les traces qu'a laissées le prophète, il y a tuer des dessinateurs caricaturistes qui ont blasphémé en dessinant une caricature
sûrement
du prophète
pas. Ça, certainement non.
Et alors, à quel titre des gens lancent des fatwas alors?
Alors, justement, ça, ce sont les déviations que n'ont jamais voulu l'islam. Et je prendrai... excuse-moi, tu m'as posé une question, je réponds.
Oui, mais vous m'interrompez, moi je suis l'école José Arthur, moi. Hein.
Je reprends les réactions du jeune imam d'Ivry, qui est excellente, et qui dit, mais il faut faire une université de formation des imams. Et lui-même est un universitaire qui fait le tour de différentes mosquées pour donner aux fidèles une conférence, des exposés sur le véritable islam et non pas sur un islam perverti à la mode des terroristes.
Voilà, c'est comme si vous disiez que tous les chrétiens, quand on fait une catégorisation des habitants d'un pays et qu'on dit il y en a tant de catholiques ou de chrétiens puisqu'on rajoute des protestants, ils ont tous lu les évangiles, l'Ancien Testament, les évangiles apocryphes, ils ont fait des histoires comme vous.
Et il y a sûrement
des gens qui se réclament de l'islam qui n'ont même pas lu le Coran.
Oui, mais c'est tout le problème, justement, des croyants de n'importe quelle religion que ce soit, qui n'ont pas de culture de leur religion.
Voilà. Donc,
et c'est le devoir de leur... formateur.
Ah oui, non, mais et pourquoi ça serait pas le devoir du ministère de l'Éducation nationale?
Ah ben justement, alors j'y viens.
De défricher.
C'est le devoir de ces formateurs, conjointement, j'ai bien dit conjointement, avec un représentant du ministère, d'établir un centre de formation intellectuelle et spirituelle. Bon, acceptable par tous. Alors, je dis bien participation des deux pour qu'il n'y ait pas prédominance de l'un sur l'autre qui puisse être contestable par la suite. Hein. Attention. Et avec cette prudence...
Vous savez bien que ça peut pas marcher, ça. Il y a au moins 5 islams. Des sous-catégories.
À partir du moment où on réunit un collège, pas seulement pour l'islam, même pour les chrétiens, un collège de penseurs d'un côté et de l'autre, on peut supposer, on peut penser qu'ils vont être assez honnêtes pour jouer la carte. Et à partir du moment où un représentant autorisé et compétent de l'État est présent, bon, on peut penser qu'il y aura une synthèse intéressante pour la formation de responsables. Moi, je crois beaucoup à la synthèse de formation.
Je suis en parfait désaccord avec vous.
C'est possible.
Vous êtes en train de m'expliquer qu'il faut qu'il y ait un consensus sur un truc qui ne nous regarde pas, qu'il va falloir que l'État soit impliqué dans la façon dont on va enseigner dans des écoles privé quelque part, parce que pour avoir du catéchisme, que ça soit de l'islam, ce sont des organismes privés, et on sait ce qu'est le statut actuel de l'école privée dans ce pays, et l'État va devoir, autrement que par simplement l'enseignement de l'histoire des religions, se mettre à polémiquer avec d'autres champs pour obtenir un consensus, pour faire un enseignement qui va niveler les contradictions.
C'est pour cela que j'ai dit qu'il y ait qu'il y ait des représentants de chacun des deux pour contrebalancer les dérives.
Oui, enfin, c'est comme si vous me disiez, pour discuter de la façon dont dans les écoles on va aborder la place de l'Église, on a des représentants de Saint-Nicolas de Chardonnay et Monseigneur Lefebvre qui disent de toute façon, ça s'est arrêté à partir du moment où on a arrêté de faire la messe en latin.
Non, mais attendez, quand dans une école libre, théoriquement libre, je veux bien théoriquement, on établit les programmes scolaires, l'État a quand même la mission de fixer un programme scolaire minimal.
Ah ben oui, vous n'allez pas contester ça quand même.
Non, du tout. Bon, donc je dis, ne faisons pas semblant de penser qu'il n'y a pas d'intervention de l'État. Il y en a une, obligatoire et naturelle.
Alors, mais sur le contenu d'un enseignement qui donne les mêmes chances à tous les enfants d'une république, oui.
Maintenant, vous savez très bien, je vais vous donner un exemple. Je suis encore aumônier en armée. Bon, les discours ou prêches des aumôniers sont quand même surveillés. Et si si nous tenons des discours ou des prêches par trop contradictoires à une certaine éthique, eh bien...
Une certaine éthique ou un dogme ?
Éthique, ai-je dit. Eh bien, automatiquement, il y a une sanction. C'est normal.
Ça veut dire que dans votre public, il y a quelqu'un chargé d'écouter, de transmettre ?
Non, mais par exemple, c'est clair que, par exemple, bon, dans, un aumônier militaire, s'il tient des discours haineux par rapport à une autre religion présente dans la caserne ou dans l'armée, immanquablement, le colonel va le savoir d'une manière ou d'une autre. Et il a le devoir d'intervenir pour ne pas casser l'unité entre les hommes. Bon. Donc, à ce moment-là, le gaillard, qu'est-ce qui va arriver ? Il va récolter une signature en bas à droite. Ou bien, s'il persiste, il va se faire virer. Écoutez, on a vu un jour une vidéo. Ça se passait exactement, sur un bateau, le pacha du bateau aligne ses hommes, c'est le moment du départ du bateau, on soulève la passerelle, et il y a les traditionnels sifflets des marins pour le soulevage seulement de cette passerelle.
Ah, et à ce moment-là, soulevage ou soulèvement,
soulèvement. Bon. Et à ce moment-là, que voit-on et qu'entend-on? Coupant le nez devant le pacha du bateau, un aumônier qui arrive avec son voile huméral et l'ostensoir du Saint-Sacrement et qui chante le Tantum Ergo pour la bénédiction du Saint-Sacrement. Enfin, c'est complètement aberrant. Cet aumônier, eh ben, le pacha a réagi très bien, il l'a viré.
Il l'a mis à la baille, non?
Au prochain arrêt du bateau, l'aumônier a été viré et il y a eu un message parvenu à l'aumônerie aux armées disant que l'aumônier untel se trouvait à tel port et qu'il était viré.
Ben, débarqué, le gars.
Débarqué! Il transgressait aux règles les plus élémentaires de la République. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Ben, ça se peut, donc.
Ben, ça se peut, bien sûr.
Bernard Vacherot, je rappelle qu'on peut entendre votre grande histoire du monachisme sur les ondes de CFM tous les mardis à 12h35. Merci d'être venu répondre à quelques questions comme ça, à brûle pour point, sur Charlie.
Volontiers.
Moi, la grande question que je me posais, parce que j'assiste à des tas de débats radio-diffusés ou télévisés sur le blasphème est-il un délit dans notre République. Et en gros, il disait, ben, dans notre République, dans les textes, non, mais partout ailleurs, il y a plein d'endroits que ça craint.
Tout à fait, c'est craignos.
Voilà. Donc en fait, il faudrait exporter notre conception de la laïcité et pas se laisser importer des conceptions, théocratiques.
Oui, mais on va dire perverties.
Merci Bernard Vacherot.
Avec plaisir. Soleil.
Le mag, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi, même heure, même punition. Ciao, ciao. Passez de bon après-midi à l'écoute des programmes de CFM. Soleil.